VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 28 septembre 2015. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Nouvelle journée de paralysie générale aujourd'hui à Bangui après les violences meurtrières du week-end.
Message de réconciliation nationale du président ivoirien Alassane Ouattara lors d'une visite dans le fief de son prédécesseur Gbagbo.
Deuil national de 3 jours au Mali et au Niger, 2 pays africains affectés par la tragédie de Mina en Arabie Saoudite.
Tête à tête, Barack Obama, Vladimir Poutine, aujourd'hui à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils discuteront de la Syrie et de la présence militaire russe dans ce pays.
Et puis l'Irak a annoncé un nouvel accord de partage de renseignements avec la Russie, l'Iran et la Syrie pour combattre le groupe État islamique.
Le pape François a quitté les États-Unis à l'issue de sa visite de 6 jours. Et ne manquez pas notre rubrique « La Minute Éco » ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Nouvelle journée de paralysie générale ce lundi à Bangui, capitale de la République centrafricaine. À la suite des violences meurtrières de ces dernières 48 heures, la société civile appelle à une désobéissance générale à partir de ce 28 septembre dans tout le pays. Les précisions de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
En dépit d'un calme précaire observé dans la nuit de dimanche à lundi dans les zones où se sont déroulés les affrontements, Bangui est loin de retrouver l'accalmie. Des barricades sont encore maintenues dans plusieurs avenues et la tension est toujours au pic. À la suite des violences de samedi et dimanche qui ont fait au moins 30 morts, plus d'une centaine de blessés, de nombreuses habitations incendiées selon un bilan provisoire, la société civile centrafricaine appelle à une désobéissance générale à partir de ce 28 septembre. La société civile qui appelle par ailleurs à une forte mobilisation de la population dans les rues, à des concerts de casseroles toutes les nuits, au boycott du travail et à empêcher les mouvements des forces internationales. Dénonçant cette nouvelle flambée de violence, le Premier ministre de la Transition, Mahamat Kamoun, a parlé d'un complot ourdi contre les institutions de l'État. Un couvre-feu est donc instauré dès 18h à 6h du matin. Malgré les nombreux appels au calme des religieux et de la classe politique, la situation est loin de connaître une amélioration. Sur le terrain, les belligérants sont sur le pied de guerre. Les 3e et 5e arrondissements, zones de tension sont vidées de leurs habitants. Samedi, des hommes armés du quartier musulman de PK5 sont été pris à des civils non musulmans des quartiers périphériques après la découverte du corps d'un mototaxi musulman assassiné et jeté au quartier combattant non loin de l'aéroport de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a lancé dimanche un message de réconciliation nationale au premier jour de sa visite dans le fief de son prédécesseur Laurent Gbagbo, et ce à moins d'un mois de la présidentielle du 25 octobre. « Nous devons tout faire pour que ce qui nous est arrivé il y a une dizaine d'années ne se reproduise plus », a déclaré M. Ouattara au cadre chef traditionnel et religieux de Daloa. Nous devons chacun oublier ce qui s'est passé pour mieux bâtir l'avenir, a prôné Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Il a appelé les Ivoiriens à des élections apaisées.
Au Burkina Faso, le principal chef traditionnel du pays exhorte le président de la transition, Michel Kafando, à la tolérance et la classe politique au respect de l'intérêt général, Timothée Donangmaï.
Le Moro Naba Bawongo, roi des Mossi, l'ethnie majoritaire du pays, a reçu dimanche la visite du président Kafando. Chef traditionnel très respecté, il avait pesé de tout son poids dans les négociations entre militaires putschistes et loyalistes pour sortir de la crise provoquée par le coup d'État du 17 septembre. Le Moro Naba demande au président de se faire violence, d'être plus tolérant, plus compréhensif, plus humble, car il est le président de tous, a dit un ministre du chef traditionnel. Autre recommandation du chef traditionnel, selon le ministre, un appel à la classe politique à plus de responsabilités et à ne voir que l'intérêt général. À la population de toujours garder jalousement la réputation d'homme intègre, respectueux et tolérant, homme de pardon, et à l'armée d'être républicaine, unifiée et dans les casernes. Le président Kafando a à son tour remercié le Moro Naba pour sa médiation. Il a souligné que le pays a besoin de la paix pour organiser des élections dans les meilleurs délais.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, surnommé Abu Tourab, a été remis à la Cour pénale internationale par les autorités du Niger et il se trouve maintenant aux Pays-Bas. Al-Faki est soupçonné, selon un mandat d'arrêt émis le 18 septembre par la CPI, de crimes de guerre, d'attaques intentionnellement dirigées à Tombouctou au Mali contre des bâtiments consacrés à la religion, ainsi que des monuments historiques au moment de l'occupation des régions du nord du Mali. De Gao, notre correspondant Boubacar Touré, nous brosse son portrait.
Ahmed Al-Faki Al-Hamdi, de son nom de guerrier Abou Tourab, est né à Agoun, à 100 km de Tombouctou. C'est un Touareg de la tribu Ansar Touareg. Il a été une personnalité très active dans le contexte de l'occupation de la ville de Tombouctou. Il était jusqu'en septembre 2012 à la tête de Sahba, c'est-à-dire la brigade des mœurs, à partir de mai 2012 déjà membre du tribunal islamique de Tombouctou, et c'est lui qui exécutait les décisions. Il a participé activement à la destruction des bâtiments faisant l'objet de poursuites au niveau de la CPI. On peut citer entre autres le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki ou le mausolée Ahmed Foulan et la mosquée Sidi Yahya. Ahmed El Aki El Hamdi, dit Abou Tourab, est la première personnalité à répondre devant la CPI dans le contexte de l'enquête sur la situation au Mali. Plusieurs autres personnes qui se sont distinguées dans la destruction des mausolées et dans les amputations au moment de l'occupation des régions du nord du Mali, attendent à leur tour de répondre de leurs actes devant le procureur de la Cour pénale internationale. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran demande à l'Arabie Saoudite d'assumer ses responsabilités et de présenter des excuses aux musulmans et aux familles des victimes après la bousculade de Mina qui a fait au moins 769 morts pendant le Hajj annuel à la Mecque. Pour sa part, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Abel Ahmed Al-Jubeir, a accusé l'Iran d'exploiter la tragédie à des fins politiques.
Et à noter, Idrissa, que nous reviendrons sur le sujet des victimes africaines de la tragédie de Mina dans la partie magazine de cette émission. L'Irak a annoncé un nouvel accord de partage de renseignements avec la Russie, l'Iran et la Syrie dans leur combat contre le groupe État islamique. Selon un porte-parole du Premier ministre Haider Al-Abadi, cet accord sera axé, je cite, « sur la surveillance des mouvements des terroristes et la dégradation de leurs capacités ». Il s'agit là de la dernière indication d'une influence croissante de la Russie dans la région où Moscou a envoyé des avions de combat et autres équipements dans une base aérienne syrienne. Pour le secrétaire d'État américain John Kerry, les intentions réelles des Russes en Syrie ne sont pas encore claires.
On s'attend à ce que les tensions sur le conflit en Syrie soient au centre du premier face-à-face depuis un an que le président Obama doit avoir aujourd'hui à New York avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans une interview publiée hier soir par la chaîne de télévision CBS, M. Poutine a réaffirmé son soutien au président Bachar al-Assad, tout en précisant que la Russie ne participera à aucune opération terrestre sur le territoire syrien contre les extrémistes du groupe État islamique, au moins pas pour l'instant.
Enfin, le pape François a quitté dimanche les États-Unis après avoir célébré une messe solennelle devant des centaines de milliers de personnes à Philadelphie, point d'orgue d'une visite de 6 jours. Notre envoyé spécial Jacques Aristide fait le point.
C'est un pape avec un cœur plein de gratitude et d'espérance. Ce sont ces mots qui a quitté les États-Unis dimanche soir. Des mots prononcés lors d'une brève cérémonie à l'aéroport international de Philadelphie, peu avant le départ de son vol. Plus tôt dans la journée, les rues de Philadelphie pullulaient de monde, venu voir le souverain pontife défiler dans sa papamobile avant la messe en plein air sur la Benjamin Franklin Parkway. Dans son homélie, il a de nouveau mis l'accent sur les relations familiales. Dans la matinée, le Saint-Père avait rencontré des victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé catholique. Il a dénoncé le scandale des prêtres pédophiles. « Dieu pleure », a-t-il dit. Un dimanche marqué également par une visite à la prison de Caron from Hold pour s'entretenir avec des détenus. Le pape a critiqué le système carcéral qui, d'après lui, n'offre pas de nouvelles possibilités. Jacques Aristide, Philadelphie, VOA Afrique.
Et maintenant, la Minute Éco avec Anastasie Toudiech.
EcoBank inspire confiance à la banque allemande. La bonne santé d'EcoBank lui vaut la confiance de la Deutsche Bank qui lui accorde un prêt de 285 millions de dollars sans aucune garantie. Le groupe bancaire panafricain basé à Lomé utilisera cette ligne de crédit pour refinancer des prêts existants. Présent dans 36 pays africains, EcoBank emploie 20 000 personnes. Un nouvel hôtel sur le plateau à Abidjan. Le quartier du plateau à Abidjan se prépare à accueillir un hôtel de luxe suisse. Dans 6 mois, le groupe Mövenpick Hotels and Resorts devrait commencer les travaux pour un hôtel 5 étoiles comptant 220 chambres. Il sera réalisé en partenariat avec Bouygues Construction et l'homme d'affaires ivoirien Abdoul Kassam pour un investissement de 55 millions d'euros. Est-ce bientôt la fin des délestages dans la région du littoral au Cameroun? La société norvégienne Grenor et l'État camerounais ont signé un accord pour la construction d'une centrale thermique dans la région du littoral camerounais. D'une capacité de 300 MW pour un investissement de 109 milliards de francs CFA, le projet devrait permettre de créer plus de 1000 emplois. 7e African Business Awards, une femme à l'honneur. Le trophée de la femme d'affaires la plus remarquable a été attribué cette année à la Sud-Africaine Daphne Mashilinkosi, présidente de Kalagadi Manganèse, société qui a créé plus de 30 000 emplois dans la province du Cap. Selon le Point Afrique, elle sera la plus importante personnalité minière des 30 dernières années.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Idrissa.
On démarre avec du football, les demi-finales de la Ligue africaine des champions et le tout-puissant Mazembe battu au Soudan.
Les Congolais se sont inclinés 2-1 sur la pelouse d'El Merieck. Les Soudanais, qui ont globalement dominé la rencontre, ont ouvert le score par Francis Kofi. Égalisation de Thomas Oulouengou en seconde période. Et c'est finalement Nasser Bakri qui a donné la victoire aux hommes de Diego Gazito. Score final, on le rappelle, 2-1. Mais ce but à l'extérieur, tout reste encore possible pour les Corbeaux avant le match retour dimanche prochain à Lumumbashi.
Dans l'autre demi-finale, l'USM Alger a fait un grand pas vers la qualification.
Exactement Idrissa, succès importantissime des Algériens face à Al Hilal, une victoire 2-1 au Soudan. Et pourtant, c'était mal embarqué pour l'USMA qui a encaissé un but très tôt, dès la deuxième minute par El Taguer. Mais Aoudia et Beitech ont marqué pour le club d'Alger qui est donc en ballotage très favorable avant le match retour sur sa pelouse le week-end prochain.
Demi-finale également en Coupe de la Confédération et bonne opération pour Orlando Pirates.
Les Sud-Africains ont pris une option sur la finale en dominant le National du Caire 1-0 à Soweto grâce à un but de Gaboussa. L'autre match des demi-finales de cette Coupe de la Confédération a vu la large victoire de l'Étoile du Sahel 5-1 face aux Zamalek. Avantage presque décisif pour les Tunisiens. Le match retour aura lieu samedi prochain. Et puis un dernier mot de foot pour parler du dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Et le Nigeria est allé battre la République démocratique du Congo à Kinshasa 2-1. Match retour dans 2 semaines à Lagos.
Suite de l'afro-basket féminin à Yaoundé au Cameroun et justement le pays hôte valide son billet pour les quarts de finale.
Un sans faute pour les Camerounaises. 3 victoires en 3 matchs après avoir battu l'Ouganda 86-34. Suffisant pour s'assurer une place parmi les 4 premières équipes du groupe A. Le Mali a disposé du Gabon, soit 11-63. Le Mozambique a écrasé l'Afrique du Sud, 86-43. Qualification assurée pour le Sénégal. Une démonstration de force des Lions face à la Guinée, 102-44. Dans ce groupe, succès du Nigeria devant l'Égypte, 97-68. Et puis l'Algérie s'est de nouveau inclinée, 3 défaites en 3 matchs, la dernière face à l'Angola.
En rugby, ça va mieux pour l'Afrique du Sud en Coupe du Monde qui se déroule actuellement en Angleterre.
Après l'affront subi face au Japon Idrissa, les Boss ont enfin lancé leur Coupe du Monde en dominant les Samoa 46-6. Ils sont actuellement deuxièmes derrière l'équipe d'Écosse qui a étrié les États-Unis 39-16. Victoire non sans peine également de l'Irlande face à la Roumanie 44-10. À noter également l'extraordinaire victoire des Gallois face à l'Angleterre 28-25. Et puis enfin en cyclisme, départ hier du Tour de la Côte d'Ivoire, la 22e édition. Et c'est le Camerounais Jérémy Nzenke qui remporte la première étape de devant le français Clément Osso.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, l'opposition a appelé hier, au cours d'un meeting dans la capitale, à un non massif au référendum constitutionnel annoncé la semaine dernière par le président Denis Sassou Nguesso. Les opposants ont même demandé à la population de descendre dans la rue le jour même où la date de ce référendum sera annoncée. Près de 30 000 personnes se sont rendues à ce meeting, mais la police parle de 3 000 seulement. Reportage de Ngwala Nguessou, notre correspondant à Brazzaville.
Jamais l'opposition n'avait mobilisé autant de monde. Près de 30 000 personnes se sont massées sur les 3 km que couvre le boulevard Alfred Raoul de Brazzaville, même si les organisateurs, eux, parlent de 300 000 individus. Un seul message au cours de ce meeting, non au changement de constitution, surtout pas au référendum constitutionnel annoncé par le chef de l'État, Pascal Tsatsima Biala de l'UPADS.
Consultation, dialogue, mais tout ça c'est pourquoi un matin, il y a quelque chose pour dire, je veux maintenant faire un référendum, je veux faire évoluer les institutions. Mais en réalité, il voulait dire, et nous l'avons compris, vous l'avez compris, il voulait simplement dire, je vais changer la constitution. Et là, c'est grave. Jamais un président n'est arrivé au terme de son mandat tranquillement, sans heurts, sans guerre, réunissant donc toutes les commissions de développement. Président Lulu n'était peut-être pas né. Président Lulu n'a pas terminé son mandat. Président Nassamba Déba, coup d'état senti de Mekatuleyandi. Revêté président Marien Vanier Banoufayandi. Le président Sassou a une chance inouïe, mais ce n'est pas lui, c'est notre pays qui a aujourd'hui une chance inouïe d'arriver sans problème, sans heurts, à une alternance normale. Il a fait le nombre de mandats que lui-même s'est donné.
Pour André Okombi Salissa, un fondeur du Parti congolais du travail au pouvoir, les militants doivent être en éveil.
Mais le jour qu'ils vont annoncer le référendum, ou bien le ministre de l'Intérieur va continuer avec ses révisions de liste, nous vous appellerons et nous serons devant nous-mêmes. Est-ce que les Congolais vont retourner?
Non!
Est-ce que vous allez répondre à notre appel?
Oui!
Est-ce que vous allez marcher dans les rues?
Oui!
Je vous remercie.
Mathias Nzon menace carrément de siéger le ministère de l'Intérieur.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Parce que nous avons fait 30 ans avec le même. Vous n'êtes pas fatigué de voir la même figure?
Oui!
Alors, il faut maintenant changer. Nous voulons d'une autre politique et nous voulons des hommes nouveaux.
C'est le tout premier meeting de l'opposition réuni à Brazzaville et il a été un franc succès. Nguela Nguessou, Brazzaville, la voix de l'Amérique.
Une dizaine de militaires de la République démocratique du Congo et deux civils ont été abattus ce dimanche par des individus armés non identifiés non loin de l'Emera, dans le sud de la province du Sud Kivu. Ils faisaient partie d'un convoi d'agents de banque qui allait payer les enseignants des écoles de l'Emera. Les assaillants ont emporté tout l'argent. Pour des précisions, Timothée de Nangmaï a joint notre correspondant Ernest Muhero Gwadede à Bukavu.
Selon les informations en possession, l'attaque ou l'embuscade a eu lieu dans un escarpement qu'on appelle les escarpements de Nyakandongo, qui est précisément à 7 km de l'Emera. Et à cet endroit-là, il y aurait donc un convoi qui amenait les agents de la banque BNB pour pouvoir effectuer la paye des enseignants dans le moyen plateau de l'Emera. Ce Nyakandongo, c'est au sud de la province du Sud Kivu, entre Uvira et la plaine.
A-t-on une idée de l'identité des assaillants?
Jusque là, je ne dispose pas d'éléments sur l'identité des éléments qui ont attaqué, mais selon différentes sources que nous avons contactées, on sent que ce sont des gens qui savaient parfaitement que les convois vont passer par là, selon des sources concordantes, aussi bien de l'armée que de la société civile. Ces assaillants ont directement attaqué les véhicules où les militaires étaient donc en train d'escorter l'enveloppe salariale des enseignants.
Pourquoi est-il nécessaire d'organiser des convois de payeurs pour la région?
Évidemment, lorsqu'on parle de l'Emera, c'est une zone qui est assez éloignée des grandes villes. C'est pratiquement à presque 100 km de la ville de Bukavu. Et dans ces zones-là, il n'y a pas de banque, ni de succursales des banques. Donc, les banques chargées de la paie des enseignants doivent s'organiser, mettre un emploi salarial dans un véhicule qui doit faire bien des kilomètres. Et pour cela, il requiert donc le convoi de l'armée pour pouvoir sécuriser cet argent. Et c'est quelque chose qui se fait chaque fin du mois pour que les enseignants touchent leur salaire. Il faut que ces convois soient sécurisés par les militaires. Et voilà, pour cette fois, donc, il y a eu cette embuscade qui a été tendue à ces convois. Et il s'agit vraiment d'une somme, selon les informations, qui concernait des enseignants d'une trentaine d'écoles du Moyen Plateau et de Mera.
Notre correspondant Ernesto Mujero Guadede à Bukavu.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Les détenus des maisons d'arrêt du Tchad et ceux de Sar, chef-lieu de la région du Moyen-Chari, situé au sud du Tchad en particulier, éprouvent d'énormes difficultés de survie. Les crédits de fonctionnement ne sont pas accordés par l'État tchadien depuis 9 mois à cause de la conjoncture économique, nous signale de N'Djamena notre correspondant André Kodma-Djingar.
La situation des pensionnaires de la maison d'arrêt de Sar, située à environ 800 km de la capitale tchadienne, est peu reluisante. Ces détenus, plus de 400 toutes catégories confondues, meurent de faim et n'ont pas une structure sanitaire et d'hygiène adéquate. Les droits élémentaires garantis par la législation tchadienne aux détenus des différentes maisons d'arrêt du Tchad semblent être ignorés par le ministère de tutelle. Le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Sar, Nouditouba et Don Orngar, déplore cette situation.
Nous avons un crédit de fonctionnement qui devait permettre à nourrir journalièrement les détenus, mais malheureusement, nous sommes au regret de constater que ce crédit est quasi inexistant et les fournisseurs refusent de continuer à fournir parce qu'ils ne sont pas payés. Et aujourd'hui, il n'y a même pas un grain d'haricot ou de mil pouvant donc servir à la nourriture des détenus. Secondo, la question de la santé des détenus se pose avec acuité parce que nous avons un infirmier major avec une infirmerie mais sans médicaments. Nous avons des porteurs de VIH, nous avons des tuberculeux, nous avons des gens qui ont des dysenteries un peu accentuées et qui nécessitent des soins appropriés.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Sar interpelle également le ministère en charge de la justice et des droits de l'homme sur les conditions d'hygiène et d'assainissement de ces détenus.
Les nouvelles maisons d'arrêt construites selon les normes internationales sont dotées de toilettes modernes. Et le problème d'eau se pose avec acuité parce que les châteaux d'eau qui ont été construits n'ont pas réussi donc à faire couler normalement de l'eau et évacuer les excréments des détenus. La maison d'arrêt est appelée à être gérée et il faut que ceux qui sont appelés à la gérer puissent donc mettre les moyens appropriés pour que nous n'ayons pas de problème avec les détenus.
Depuis 9 mois, aucune subvention de l'État n'a été accordée à toutes les maisons d'arrêt du Tchad. Pour le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Rota Dingamadi Carlos, cette difficulté est due aux contraintes budgétaires.
Il n'y a pas que Sar qui connaît cette difficulté, c'est une difficulté qui est arrivée cette année dans presque toutes les maisons d'arrêt du Tchad. Il y a eu une contrainte budgétaire et donc on n'a pas pu débloquer les moyens à temps pour résoudre les problèmes qui surgissent dans les maisons d'arrêt. Donc si Sar a déjà lancé le cri d'alarme, je crois que c'est un problème qui est général et nous sommes en train de nous démener de façon à résoudre progressivement ce problème. C'est une question des droits humains. Je crois que la plus haute autorité a également été saisie de la question. Donc les efforts sont en train d'être conjugués pour que ce problème soit réglé.
André Kodouma-Djingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La tragédie de Mina et l'Afrique. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, écourte sa visite aux États-Unis pour regagner ce lundi son pays où le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours. De Bamako, Kassim Traoré.
Environ une cinquantaine de pèlerins maliens sont morts à Mina. Certains rescapés racontent comment ils ont été sauvés à l'image de Madi Natal.
Ce que j'ai vu, c'est inexplicable. Il faut vivre ça pour comprendre. À 300 mètres avant qu'on arrive, il y avait du monde. Moi, j'ai su que je ne pouvais pas supporter. Donc, j'ai demandé à mon compagnon Youssouf de me déposer en haut et d'aller jeter les pierres et de me prendre au retour. Au bout de 45 minutes, je savais que je ne pouvais pas supporter. Je suis descendu à l'étage d'en bas. Là-bas aussi, taxi. J'ai attendu 45 minutes, on montait sur moi. Je ne savais même pas qu'il y avait un danger dehors. C'est à la sortie que j'ai sauté sur des morts pour pouvoir passer.
Depuis le jeudi 24 septembre jusqu'à ce dimanche, le gouvernement malien n'avait pas fourni de chiffres sur le drame de Mina. Ce drame pouvait être évité, Bruno Loma croyant.
Des mesures devraient être prises par le pays organisateur, l'Arabie Saoudite. Chaque année, on apprend qu'il y a des drames. Mais cette année, ce drame a pris une ampleur très grave et très regrettable.
Dans une déclaration à la nation faite à partir de New York, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, écoute sa visite aux États-Unis ce lundi.
Notre pays, dès l'annonce de ce qu'il est advenu en Arabie Saoudite, a pris les mesures d'investigation appropriées afin d'informer les ayants droit. Aussitôt que nous aurons délivré notre message aux nations du monde, nous en retournerons au Mali pour prendre part avec tout notre peuple à ce deuil singulier qui frappe notre nation.
Une grande prière pour les victimes dans toutes les mosquées du Mali est prévue ce vendredi. Il en a été de même hier dans les églises et paroisses du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, également, un deuil national de 3 jours a été décrété à la suite de la catastrophe de Mina. Un bilan provisoire de 22 morts a été annoncé par le gouvernement de Niamey. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le bilan est toujours provisoire. Il fait état, selon un communiqué du gouvernement qui s'est réuni en session extraordinaire le samedi dans l'après-midi, de 22 personnes mortes sur lesquelles seulement 13 ont été identifiées. Le nombre des blessés et des portés disparus reste encore inconnu. Aussi, une mission conduite par le ministre de l'Intérieur a été dépêchée en Arabie Saoudite pour faire un point complet de la situation qui sera d'ailleurs suivie par 2 comités de crise, l'un à Niamey, l'autre en Arabie Saoudite. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Il débute ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Le commissariat à l'organisation du Hajj a indiqué dimanche tard dans la nuit que 2 nouveaux corps ont été identifiés. Malgré ces informations officielles, beaucoup de citoyens soutiennent que le bilan dans les rangs des plus de 12 000 pèlerins nigériens est largement supérieur au chiffre même provisoire annoncé, ce qui pose des interrogations au sein de l'opinion. Le gouvernement, ses démembrements ainsi que les agences en charge de l'organisation du Hajj cacheraient-ils des choses et pourquoi? Ce qui est sûr, beaucoup de familles restent sans contact de leurs parents. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Togo, c'est la rentrée scolaire après 2 mois de vacances de Lomé Kayilosun.
Il y a quelques jours, des rumeurs faisaient état d'un report de la rentrée compte tenu des exigences non satisfaites du corps enseignant. Après des discussions avec les syndicats, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, de la formation technique et professionnelle, Komi Tchakpele, annonce que la rentrée est maintenue au 28 septembre.
La rentrée scolaire 2015-2016 aura bien lieu le 28 septembre. S'agissant du paiement des primes de rentrée de bibliothèque, nous sommes engagés auprès de nos collègues enseignants pour œuvrer inlassablement de façon à ce que ces primes soient payées dans les meilleurs délais.
Même si les syndicats affirment que c'est dans la sérénité que les enseignants débutent l'année scolaire, des inquiétudes subsistent. Kalaha Soja, porte-parole des fédérations de l'éducation du Togo.
Nous entamons cette rentrée scolaire avec bonne foi. Seulement, nous avons entre-temps posé des doléances. Notre doléance urgente, c'est que le gouvernement nous paie les primes de rentrée de bibliothèque. Les primes ne sont pas encore versées, mais nous espérons que dans les prochaines heures, quelque chose sera fait.
Inquiétude également du côté des parents d'élèves et d'Okomi Misebukbo, président de l'Union des associations des parents d'élèves des écoles publiques du Togo.
Depuis 3 ans déjà, nos rentrées ont toujours été tumultueuses. Nos souhaits, c'est d'avoir une année sereine, une année sans perturbation du tout, sans grève. Et nous, les parents, nous implorons le gouvernement à se mettre à l'écoute des syndicalistes afin que les problèmes soient réglés en amont pour que nous retrouvions une éducation de qualité pour nos enfants.
Pour une éducation de qualité, les enseignants estiment que leurs conditions doivent être revues. Une plateforme revendicative en 6 points a été posée sur la table du gouvernement togolais. Nous retrouvons Kalaha Sodja.
La première doléance, c'est d'élargir le paiement des primes de rentrée de bibliothèque aux enseignants des confessionnels. La deuxième, c'est de relever la prime d'incitation à la fonction enseignante. Il y a le problème du statut particulier de l'enseignement, il y a le problème des enseignants volontaires, leurs salaires jusqu'ici ne sont pas encore payés, et le problème de la coopérative.
Ils sont plus de 2 millions d'élèves inscrits pour le compte de l'année scolaire 2015-2016 au Togo. On se souvient que les 3 dernières années scolaires ont été marquées par des grèves des enseignants pendant des semaines, des mouvements de débrayage qui ont poussé des élèves dans la rue pour réclamer une éducation de qualité. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.